Diffusé tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Christine Robert, avec aujourd'hui Florent Layani à la technique et préparé par Geneviève Méric, Solène Saller, Mathilde Unger, Camille Lugan, Avril Ventura, Adèle Van Rett. Adèle, que vous retrouverez tout à l'heure, comme tous les jours, à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins, où elle accueillera aujourd'hui le psychanalyste François Gantret, auteur d'un livre au très beau titre, La nostalgie du présent. Ok. Suite ce mardi d'une semaine sur le scepticisme dans les nouveaux chemins de la connaissance, après Guillaume Di, venu vous parler hier du scepticisme à l'antique, avant Sylvia Giocanti qui vous parlera demain des pensées de Pascal, c'est Frédéric Brahami qui est peut-être aujourd'hui notre invité, car il est en duplex et je ne sais pas si nous allons réussir à le joindre. Frédéric Brahami, qui vient donc ou qui viendra peut-être discuter du scepticisme de Montaigne, le très fameux « Que sais-je ».
Il s'engendre beaucoup d'abus au monde. Ou pour le dire plus hardiment, tous les abus du monde s'engendrent de ce qu'on nous apprend à craindre de faire profession de notre ignorance, et que nous sommes tenus d'accepter tout ce que nous pouvons réfuter. Nous parlons de toutes choses par précepte et résolution. La style à Rome portait que cela même qu'un témoin déposé pour l'avoir vu de ses yeux et qu'un juge ordonné de sa plus certaine science était conçu en cette forme de parler. Il me semble. On me fait haïr les choses vraisemblables quand on me les plante pour infaillibles. J'aime ces mots qui amollissent et modèrent la témérité de nos propositions. À l'aventure, aucunement, quelque, on dit, je pense, et semblable. Et si j'eusse eu adressé des enfants, je leur eusse tant mis en la bouche cette façon de répondre enquêteuse, non résolutive. Qu'est-ce à dire? Je ne l'entends pas. Il pourrait être. Est-il vrai? Qu'ils eussent plutôt gardé la forme d'apprenti à 60 ans que de représenter les docteurs à 10 ans, comme ils font. Qui veut guérir de l'ignorance? Il faut la confesser. L'étonnement est fondement de toute philosophie. L'inquisition, le progrès, l'ignorance, le bout. Mais en vérité, il y a quelque ignorance forte et généreuse qui ne doit rien en honneur et en courage à la science. Ignorance pour laquelle concevoir, il n'y a pas moins de science que pour concevoir la science.
Un roi d'Espagne ou bien de France avait encore un croupier. C'était au pied gauche, je pense, il boitait. À faire pitié. Les gens de cour, espèce à droite, s'appliquèrent à l'imiter. Et qui de gauche, qui de droite, ils apprirent tous à boiter. On vit bientôt le bénéfice que cette mode rapportait. Et de l'antichambre à l'office, tout le monde boitait, boitait. Un jour, un seigneur de province.
Tout le monde boitait, boitait. Frédéric Brahami, est-ce que vous êtes avec nous? Allô?
Oui.
Frédéric Brahami, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, c'est un miracle de vous parler. C'est un miracle, on a commencé cette émission, comme certaines commencent, en duplex parfois, dans le vide et dans l'incertitude, de façon assez montagnienne d'ailleurs, hein, on ne sait pas où va nous conduire le point de départ. Montaigne dit, dans un texte extrait d'un chapitre intitulé « Des boiteux », le chapitre 11 du livre 3 des essais, Montaigne dit « L'étonnement est le fondement de toute philosophie, l'inquisition, le progrès, l'ignorance, le boue ». Est-ce que ça veut dire que du point de vue de Montaigne, en somme, il s'agit de s'en tenir à l'étonnement, de savoir préserver l'étonnement du risque que constitue pour lui l'acquisition d'un savoir et les certitudes qui vont avec.
Oui, absolument. Il s'agit même de faire tous ces efforts intellectuels pour retrouver la capacité d'étonnement qui est à cause de l'habitude et à cause du dogmatisme un petit peu naturel dans lequel nous tombons, qui est souvent ignoré. Donc cet étonnement, en fait, n'est pas vraiment premier, c'est plutôt une conquête. Voilà.
C'est-à-dire qu'il faut conquérir la possibilité de s'étonner des choses. En somme, accomplir le geste qui consiste à se débarrasser des filtres qui spontanément s'interposent entre un sujet et le monde pour enfin regarder le monde avec toute la lucidité de notre ignorance.
Absolument, puisque Montaigne dit que les belles règles de la nature, c'est nous qui les lui avons taillées. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous prenons pour de la nature est en fait une simple projection de nos représentations sur les phénomènes. Et donc il faut se défaire de tout ça pour retrouver, dit-il, le miraculeux qu'il y a dans la vie ordinaire. Il y a plusieurs passages où il écrit que si nous savions regarder les choses les plus ordinaires, nous verrions qu'elles sont absolument miraculeuses et nous serions vis-à-vis de ce qui nous entoure dans la même position d'étonnement que vis-à-vis de ce qui est lointain et inconnu.
Alors il y a vraiment chez Montaigne une double dimension. Il est très corrosif puisqu'évidemment il s'en prend à cette forme paradoxale de la bêtise qu'est le savoir et surtout la science de son propre savoir ou la conscience de son propre savoir. Je me demande comment on écrit conscience ici d'ailleurs. Donc il s'en prend à cette forme de bêtise qui ne se soupçonne pas elle-même et en même temps s'il le fait, de la même façon que chez Camus, l'homme révolté dit oui avant de dire non. S'il le fait, c'est au fond par amour de la vie, des choses et du spectacle qu'elle offre.
Absolument, oui. Je pense que le scepticisme de Montaigne signifie fondamentalement un oui dit à la vie. Et c'est pour ça que Nietzsche aimait Montaigne.
Oh, Nietzsche disait que s'il avait à emmener un livre sur une île déserte, ce serait
les essais.
Ouais. Ce serait les essais de Montaigne. Et aussi d'ailleurs les pensées de Pascal. On en parlera demain et peut-être un peu aujourd'hui, puisque Pascal fait quelques griefs à Montaigne, dont on verra peut-être aujourd'hui ou demain s'ils sont fondés, dans quelle mesure ils le sont. Frédéric Brahami, on va parler dans cette émission du chapitre sur les boiteux. Enfin, en tout cas, c'est le titre. On va parler également de l'apologie de Raymond Sebon, qui est un texte très important. On va également parler du chapitre sur Démocrite et Héraclite. Et peut-être donc de Pascal, c'est le programme, reste à savoir si on pourra l'accomplir. Partons de ce chapitre donc des boiteux, qui nous a valu également d'entendre quelques mesures de Brassens sur le roi boiteux. Montaigne dit, il laisse les choses, parlant de ceux qui croient savoir, sans savoir qu'ils croient d'ailleurs, Montaigne dit « Il laisse les choses et court aux causes, plaisant causeur ». On a là un jeu de mots montagnien typique, tout à fait remarquable, qui renvoie au bavardage, celui qui au contraire fait profession de saisir l'origine de toute chose.
Oui, je pense que Montaigne considère que nous ne pouvons rien connaître des causes. Des causes du monde, des causes de la nature, et en particulier, nous ne pouvons rien connaître de Dieu comme cause première. Donc, je pense que c'est une philosophie vraiment qui ouvre la tradition en fait, phénoménologique. C'est un phénoménisme radical. Et donc, en effet, chercher les causes, c'est simplement bavarder, plaisant causeur.
La connaissance des causes appartient seulement, dit-il, à celui qui a la conduite des choses, non à nous, qui avons seulement à les subir et qui en avons l'usage parfaitement plein selon notre nature, sans en pénétrer l'origine et la nature profonde. Et Montaigne de commenter sa propre phrase en disant, c'est limpide, le vin n'est pas plus agréable à celui qui en connaît les qualités premières. En d'autres termes, la connaissance du premier genre, s'il est permis d'employer cette expression pour parler de Montaigne, connaissance sensible, la connaissance du premier genre n'est pas soluble dans une connaissance exacte des choses.
Oui, alors je voudrais réagir là dans le texte de Montaigne à subir. Il ne faudrait pas penser que la philosophie de Montaigne est une philosophie de la passivité. Je pense en effet que ce qu'il veut dire, c'est que la connaissance du premier genre est la seule connaissance que nous... La connaissance du premier genre, c'est-à-dire la connaissance par expérience, hein, est la seule que nous ayons. Simplement, il n'y a pas chez Montaigne une position de scepticisme qui serait un scepticisme résigné. Voyez-vous.
Le texte que j'ai lu, Frédéric Brahmi, est extrait de la version que je recommande d'ailleurs parce qu'elle elle permet d'entrer plus facilement dans la lecture de Montaigne. La version en français moderne des essais, c'est la version d'André Lanly qu'on trouve chez Gallimard dans la collection Quarto. Mais dans le texte original ou originel de Montaigne, il ne dit pas subir, il dit non à nous qui n'en avons que la souffrance. Est-ce que ça vous semble plus juste alors ?
Alors, la souffrance, en fait, ça veut dire, je pense que c'est une traduction en français du pathos grec, donc ça veut dire en fait l'affection. Je pense que ce que dit Montaigne, c'est que le seul rapport vrai que nous puissions avoir au monde est un rapport au moyen de l'affection, de l'affectivité. Et d'ailleurs, il y a cette phrase extraordinaire, j'y pense à propos de ce que nous sommes en train de dire, il y a cette phrase extraordinaire dans la bouche d'un sceptique, hein, dans un autre chapitre, dans De l'expérience, où Montaigne dit « Je ne me juge que par vrais sentiments, non par discours ». Donc voilà un sceptique qui nous dit qu'il juge, qu'il se juge. On avait cru comprendre que le sceptique soutenait et suspendait son jugement. Et il se juge par vrai sentiment. Non seulement par sentiment, mais par vrai sentiment. Et je crois qu'il dit la même chose dans le passage des Boiteux que vous venez de lire. En fait, la vérité est tout entière dans le sentiment, par opposition au discours, qui est en effet un discours verbeux.
De là toutes les thèses de Montaigne sur le fait que le corps ne s'égare jamais. Le corps ne nous trompe pas. Ce ne sont pas nos sens qui nous induisent en erreur. D'ailleurs, toute connaissance part des sens, dit-il, et revient à eux. Ce ne sont pas les sens qui nous induisent en erreur. C'est l'activité, j'allais dire, je ne sais pas si le mot est bon, d'ailleurs, judicatoire, qui consiste à déduire des sens des réalités.
Oui. Les sens sont... Alors, les sens, pas au sens justement où ils indiqueraient une chose extramentale, une chose extérieure qu'ils donneraient à appréhender objectivement, mais les sens dans leur puissance d'affection sont notre rapport au monde et donne la vérité. Je saurai assez la loi du monde quand je la sentirai.
Mais Frédéric Brahmi, quelle est cette vérité que les sens nous donnent ? Est-ce que il s'agit, je ne sais pas moi, vous avez vu Gainsbourg, le film de Johann Sfar ?
Non.
Ah, écoutez, c'est un film remarquable, je suis content de le dire à l'antenne, dans lequel Johann Sfar explique qu'il ne s'agit pas d'une restitution, j'allais dire, objective, exacte, précise de la vie de Gainsbourg. Il restitue, il se veut fidèle aux impressions que le parcours de Gainsbourg a déposé en lui, au fond. C'est son Gainsbourg. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'une telle démarche n'est pas une trahison de Gainsbourg ? Il est vrai que quand on regarde ce film, que vraiment je vous engage à voir, comme tous les auditeurs d'ailleurs, quand on regarde ce film, on est émerveillé par l'étonnante justesse de sa démarche, comme si un réalisateur, en s'en tenant aux impressions que dépose une histoire en lui, en étant le plus fidèle possible à ses impressions, accédait à une forme de vérité, encore qu'on ne puisse pas ici parler d'une vérité objective.
Oui, remettre en question les impressions, les affections, la sensibilité au motif que ce serait subjectif et pas objectif, c'est encore être prisonnier du fantasme de l'objectivité. Qui peut connaître le vrai Gainsbourg pour pouvoir dire que l'interprétation de Sfar est fausse ou vraie ? Donc vous me posez la question, en quel sens peut-on parler de vérité ?
Peut-être au sens où on dirait d'un dessin d'enfant qu'il est vrai.
Absolument, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toute façon d'autre moyen de se rapporter au réel pour Montaigne qu'à travers les sens, à travers la sensibilité et l'affectivité. Nous n'avons aucune communication à l'être. Je ne pourrai jamais sortir de ma sensibilité, de mes sens, de mes impressions, de mes passions, de mes affects, pour savoir si ça correspond ou pas à quelque chose d'extérieur.
Les sens. La connaissance commence par eux et abouti à eux. Après tout, nous ne serions pas plus qu'une pierre si nous ne savions pas qu'il y a le son, l'odeur, la lumière, la saveur, la mesure, le poids, la mollesse, la dureté, la rugosité, la couleur, l'éclat, la largeur, la profondeur. Voilà la base et les principes de tout l'édifice de notre connaissance. Et selon certains, connaissance n'est pas autre chose que perception par les sens. Quiconque peut me pousser à contredire les sens me tient à la gorge. Il ne pourrait pas me faire reculer plus loin. Les sens sont le commencement et la fin de la connaissance humaine. Frédéric Brahmi est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance dans une semaine sur le scepticisme. C'est de Montaigne que nous parlons aujourd'hui. Frédéric Brahmi, je n'ai pas eu le temps de le dire tout à l'heure, qui est notamment l'auteur d'un Scepticisme de Montaigne, paru aux Presses universitaires de France, également d'un livre sur Montaigne, Bayle et Hume, Le travail du scepticisme, paru là encore aux Presses universitaires de France. Frédéric Brahmi, dans le texte qu'on a entendu au début de cette émission, lu par l'ami Jean-Louis Jacopin, Montaigne commence en disant « Tous les abus du monde s'engendrent de ce qu'on nous apprend à craindre de faire profession de notre ignorance ». Dans l'apologie de Raymond Sebon, ça c'est dans le chapitre sur les boiteux, dans l'apologie de Raymond Sebon, Montaigne se moque de la foi de celui qui ne croit ce qu'elle croit que parce qu'il n'a pas le courage de refuser de le croire. En d'autres termes, rien n'est plus... Je voudrais dire stupide ou ignorant, personne n'est plus stupide ou ignorant que celui qui, un, fait profession de science et qui, donc, deux, témoigne par là du fait qu'il veut ignorer son ignorance.
Oui, oui, moi, je suis absolument d'accord avec, avec ça. Le problème, c'est que c'est la chose la plus difficile du monde que de reconnaître son ignorance. Hein. Et donc ignorer son ignorance, donc croire savoir, c'était déjà le problème de Socrate. Hein. C'est au fond, on revient à ce qu'on disait au début, ça ne peut pas être un point de départ. C'est-à-dire c'est pas ce qui est donné spontanément. Spontanément, nous ne nous reconnaissons pas ignorants. D'où le fanatisme, le dogmatisme et la violence. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que Montaigne écrit en régime de guerre, hein, de guerre civile, que ça fait 30 ans déjà que ça dure, à la fin de sa vie, et que quand il parle de fanatisme et de croyance, il y a un enjeu qui est beaucoup plus fort que ce que ça pouvait être sans doute à l'époque des Grecs.
L'un des meilleurs déguisements de l'ignorance, c'est aussi l'usage de la logique, une façon pour l'ignorance de se masquer, donc ce qu'elle est véritablement, une façon pour celui qui ignore de ne pas savoir qu'il ignore. Or, le savoir de l'ignorance, Montaigne est profondément socratique à cet égard, est peut-être le seul savoir tangible ou consistant auquel on puisse prétendre. Et de la part de Montaigne, c'est d'autant plus étonnant que c'est incontestablement l'homme le plus cultivé de son temps. On va rester un peu sur ce paradoxe de Montaigne avec vous, Frédéric Brahmi. Montaigne dit un moment dans le chapitre sur les boiteux « Les sorcières de mon voisinage ont leur vie en danger chaque fois qu'un nouvel auteur plaide pour la réalité de leur vision ». Et voici l'une des façons d'illustrer ce que dit Montaigne, c'est les Monty Python. Écoutez.
May we burn, huh? Burn her! How do you know she is a witch?
She looks like one! Yeah, she looks like one.
Bring her forward.
I'm not a witch, I'm not a witch.
But you are dressed as one.
They dressed me up like this. And this isn't my nose, it's a false one.
Well,
Well, we did do the nose.
The nose?
And the hat. But she's a witch! Yeah. Yeah.
Did you dress her up like this?
No!
No! No!
No!
No. No.
Yes.
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 Yeah, a bit. Yeah. A bit. She has got a wart.
What makes you think she's a witch?
Well, she turned me into a newt.
A newt?
I got better.
Burn her, Eddie!
Burn!
Burn! Burn!
Quiet! There are ways of telling whether she is a witch.
Are there? Huh? What are they? Tell us!
I hurt! Tell me, what do you do with witches?
Burn her, Eddie! Burn!
And what do you burn apart from witches?
More witches!
Wood! So, why do witches burn?
Because they're made of wood.
Good! So, how do we tell whether she is made of wood?
Build a bridge out of her!
Ah, but can you not also make bridges out of stone?
Oh, yeah.
Does a wood sink in water?
No,
it floats! It floats!
Throw her into the pond!
What also floats in water?
Bread!
Apples! Very small rocks!
Cider!
A great gravy!
Cherries!
Mud!
Churches!
Churches!
Lead!
Lead!
A duck!
Exactly! So, logically,
if she weighs the same as a duck, she's made of wood.
And therefore...
A witch!
A witch!
Voilà, donc c'est imparable, hein. C'est une sorcière, la preuve, elle est habillée comme une sorcière, elle porte un faux nez, alors bien sûr c'est nous qui lui avons mis ce faux nez, mais enfin, c'est quand même une sorcière, on ne lui aurait pas mis un faux nez si elle n'était pas une sorcière. Il faut la brûler, ah oui, mais on ne peut la brûler que si elle est faite en bois, puisque le bois est un combustible. Si elle est faite en bois, c'est donc qu'elle flotte. Or, qu'est-ce qui flotte également? Un canard. Par conséquent, si elle pèse le même poids qu'un canard, c'est qu'elle est faite en bois et que donc elle est une sorcière. On est ici au cœur de l'absurde, au cœur de la logique également. C'est les Monty Python qui témoignent, avec le génie qui leur est propre, d'une folie de la raison, d'une folie finalement propre à la raison, dont Montaigne est peut-être l'un des meilleurs interprètes, Frédéric Brahmi.
Oui, il dit « C'est mettre à bien au prix ses opinions que d'en brûler des gens tout vifs ». Enfin, la formule n'est peut-être pas exactement celle-là, mais c'est l'idée. Et donc, il est très sensible, en effet, à la folie meurtrière, hein, meurtrière de la raison. Et il va si loin d'ailleurs qu'il condamne pas seulement il condamne pas seulement Baudin qui était pour pour brûler les sorcières et puis bon tous ces docteurs du XVIe siècle qui étaient fort intolérants. Il condamne aussi ce qui est assez rare et peut-être unique d'ailleurs avant le XVIIIe siècle, la peine de mort en tant que telle. On a souvent dit de Montaigne qu'il était très en avance sur son temps parce que il condamnait la torture. Ce qui est vrai, il a même été repris par les gens d'église pour ça, mais il condamne pas seulement la torture en fait. Il y a un passage, je crois que c'est à la fin du chapitre 12 du livre 3, où il dit que la peine de mort, il était juge, hein, Montaigne, il était magistrat, la peine de mort était illégitime et que quand il a eu à s'occuper de justice et qu'il a eu à prononcer des peines de mort, il a plutôt préféré fausser la justice que de condamner quelqu'un à mort, la haine du premier meurtre m'en faisant craindre un second. Donc c'est quelqu'un qui avoue, enfin qui dit, hein, qui confesse, qu'il considère que la peine capitale est un meurtre. Je pense que c'est assez extraordinaire, sans doute unique. Et je pense que c'est lié à son scepticisme.
D'autres éléments qui sont liés à son scepticisme. Le texte dont vous parlez dit ceci. « On reprochait, dit-on, à Aristote d'avoir été trop miséricordieux envers un méchant homme. J'ai été, c'est vrai, dit-il, miséricordieux envers l'homme, non envers la méchanceté. » Les jugements ordinaires, ajoute Montaigne, sont vivement portés à la vengeance par l'horreur du méfait, cela même refroidit le mien. L'horreur du premier meurtre m'en fait craindre un second, et la haine de la première cruauté m'en fait haïr toute imitation. De sorte qu'on a, et c'est là que Montaigne est non seulement sceptique, mais génialement sceptique, on comprend avec Montaigne dans quelle mesure le scepticisme ne nous empêche pas d'élaborer, de formuler des jugements. Frédéric Brahmi, il y a un chapitre, notamment dans les essais, le chapitre sur les cannibales, dont on parle en général sans l'avoir lu, pour dire que oui, ce sont les limites du scepticisme de Montaigne, puisque c'est un chapitre dans lequel Montaigne dit que les cannibales, c'est pas pire que nous. Or, quand on lit ce chapitre, quand on le lit pour de vrai, quand on ne s'en tient pas à ce qu'on nous en a dit et à ce que ceux qui ne l'ont pas lu nous en ont dit, on s'aperçoit que Montaigne ne dit pas que les cannibales, c'est pareil ou pas mieux que nous. Il dit, c'est mieux que nous. Dans la mesure où les cannibales font rôtir et brûler quelqu'un pour le manger, alors que nous faisons rôtir et brûler quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes convictions religieuses.
Oui, il n'y a pas de relativisme au sens, laid ou paresseux de ce terme. Il n'y a pas l'idée chez Montaigne que tout se vaut. Non, parce que non seulement...
Donc on peut être sceptique sans soutenir que tout se vaut. C'est très important,
absolument,
ça.
Hein. Absolument.
C'est avec Montaigne qu'on peut le penser. Allez-y, pardon.
Non, non seulement il dit que ils sont mieux que nous, hein, mais il dit aussi qu'ils sont barbares. Il dit que l'action cannibale est barbare. C'est-à-dire il n'y a pas de mythe du bon sauvage dans le chapitre du cannibale. Quand on le lit bien, il dit c'est horrible de manger quelqu'un. Bon, il y a une horreur barbaresque dans cette action, mais elle est moins barbaresque que celle que nous faisons. Donc il y a même une hiérarchie ou une échelle des jugements de valeur. Et je pense que le principe... Alors quel est le principe, hein, puisqu'on est sceptique, quel est le principe qui permet d'hiérarchiser des valeurs? Je pense que ce principe, c'est le respect pour la vie.
On peut parler d'un principe? Alors, ou d'une intuition, ou d'un sentiment?
Oui, c'est un sentiment...
Pascal a dit, les principes se sentent.
Voilà, je pense que ça vient de Montaigne un peu ça, c'est-à-dire que si on entend par principe une vérité première absolument rationnelle, auto-évidente, et qui est l'objet d'une intuition intellectuelle, non, bien sûr. Si on entend par principe la puissance même d'un affect, eh bien ce principe peut susciter quelque chose comme une indignation, par exemple, qui fait que on n'a pas besoin d'arguments rationnels pour condamner la cruauté.
S'il n'y a pas besoin d'arguments rationnels pour condamner la cruauté, si le sentiment ou l'indignation y suffit, alors, il n'y a pas de mythe du bon sauvage chez Montaigne, mais on a chez Montaigne l'origine d'intuitions qui seront celles de Rousseau, notamment avec l'idée de pitié. Rousseau lui-même, d'ailleurs, s'en prend à cet isolisme de la raison philosophante qui se réfugie dans sa tour d'ivoire en disant à l'autre « Péris si tu veux, moi je suis en sûreté », à la différence de l'individu sensible qui cherche moins des principes que des émotions ou en somme à se rendre disponible à la douleur des autres, hein, Frédéric Brahmi.
Oui, il y a toute une théorie de la sympathie, hein, déjà, ou de la compassion ou de la pitié. Il emploie tous les termes chez Montaigne. Il dit par exemple, la naturelle compassion peut infiniment en moi. Voilà. La naturelle compassion peut infiniment en moi. Et d'ailleurs, il y a des textes étonnants où il dit que cette compassion qui fait que nous avons du mal à supporter de voir souffrir même des animaux fait que nous avons quelque obligation à leur égard. Et là aussi, c'est très rousseauiste, puisque Rousseau disait que nous éprouvions de la compassion, non seulement pour les êtres humains, mais pour les animaux.
Frédéric Brahami est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi dans une semaine sur le scepticisme. C'est de Montaigne, du grand, de l'immense Michel de Montaigne et des essais donc que nous parlons aujourd'hui. Les essais de Montaigne qui vont à saut et à gambade comme la musique de Fats Waller, comme si la plus grande rigueur était la condition d'abord de l'improvisation. Frédéric Brahami, on a parlé de l'héritage montagnien de Rousseau, même s'il s'en défend. Il y a beaucoup de choses à dire sur Pascal et Rousseau, pénitent, ou lecteur qui s'en cache de Montaigne.
Oui, mais ils sont surtout très imprégnés jusqu'à...
Mais profondément.
Comme des éponges. Ah oui, oui.
Et alors, l'un des exemples les plus frappants, peut-être, c'est le début de l'Apologie de Raymond Sebond, où Montaigne explique, avant Rousseau, dont on fait à tort le précurseur de cette intuition, Montaigne explique qu'il ne croit pas que la science soit mère de toute vertu. C'est-à-dire qu'on a un homme qui, au XVIe siècle, prédit à l'avance l'illusion que sera le sentiment qu'avec le progrès scientifique, que le progrès scientifique s'accompagne nécessairement d'un progrès moral.
Oui, 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 mais évidemment l'enjeu ne peut pas être le même chez Rousseau parce que Montaigne est quelqu'un qui ne pense pas du tout le progrès. Donc je pense que s'il lutte contre un intellectualisme plus que contre l'idée que la raison va nous faire progresser.
En fait, il lutte contre l'idée platonicienne que nul n'est méchant volontairement et qu'il suffit de connaître le bien, en fond, pour ne pas mal agir.
Oui, absolument, puisque Montaigne dit à maintes reprises, dans des textes assez étonnants, qu'il ne connaît pas le bien. Il ne sait pas ce qu'est le bien, mais il se conduit par fuite plus que par suite, c'est-à-dire qu'en revanche, il sait ce qu'est le mal.
Mais il le sait ou il le sent ? Quel est le bon mot
il
ici ?
Le sait. Il le sait. Chez Montaigne, savoir, ça veut dire sentir. Je saurai assez la loi du monde quand je la sentirai. Je ne me juge que par vrai sentiment. Donc ça veut dire que le seul principe d'un discours authentique, c'est le sentiment. Or, le bien n'est pas véritablement, sauf dans le plaisir, parce qu'il y a un hédonisme évidemment chez Montaigne, le bien n'est pas vraiment... l'objet d'un sentiment, le bien théorique. En revanche, la douleur, la souffrance, c'est quelque chose que par définition nous sentons. Et donc nous savons ce qui est mauvais pour nous.
Mais il dit, quand il parle d'un moment d'un corps au pied, je crois. J'ai le pied si instable et si mal posé, je le trouve si prompt à vaciller, si prêt au mouvement, et ma vue est si déréglée que je me sens à jeun autre qu'après le repos. Oui. Si ma santé me rit avec la clarté d'un beau jour, me voilà homme aimable. Si j'ai un corps qui me presse l'orteil, me voilà renfrogné, mal gracieux et inaccessible. Où l'on comprend que Montaigne articule à son scepticisme, développe son scepticisme dans le sens de ce qu'on sait en général de lui, d'ailleurs, quand on ne sait que ça, le sens d'une critique de l'identité dont Hume reprendra les termes plus tard, c'est-à-dire l'idée que je ne suis pas le même selon qu'il pleut ou qu'il fait beau, et que je ne suis fait que de l'opin. En somme, le scepticisme montagnien est indissociable d'une critique de la catégorie d'identité, à commencer par l'identité à soi.
Absolument. Selon que je me vire, je suis chaste ou luxurieux, sobre etc. Le contraire de sobre.
Soit je suis mélancolique, soit je suis colérique, ivre ou sobre. Enfin non, il dit pas ivre d'ailleurs. Il est rarement ivre.
Et donc en effet, oui, nous sommes tous de l'opin. Chaque pièce fait son jeu à part. Ce sont des textes connus et magnifiques. À chaque fois qu'on les lit, on est frappé par cette lucidité. C'est un penseur de l'instabilité. Il revendique le droit de l'instabilité. Il dit le vent s'aime à bruire plus sagement que nous. Donc, il revendique quelque chose comme une morale de l'homme-vent, on aurait envie de dire. C'est comme s'il retournait, si vous voulez, le précepte moraliste de la vanité, de l'inconstance, il le retournait en lui donnant un sens positif.
Il va également dans le sens d'une critique de l'anthropomorphisme. Et de ce point de vue, il est le précurseur non pas de Pascal, non pas de Rousseau, mais de Spinoza.
Oui.
Et il critique l'anthropomorphisme, la façon qu'a l'homme, pour le dire rapidement, de prendre ses désirs pour des réalités et donc de confondre la nature avec ses intuitions propres. Il dit « La présomption est notre maladie naturelle et originelle, la plus malheureuse et la plus frêle de toutes les créatures, c'est l'homme, et en même temps la plus orgueilleuse. Elle se sent et se voit logée ici, au milieu de la bourbe et de l'ordure du monde, attachée et clouée à la pire, la plus morte et la plus croupissante partie de l'univers, au dernier étage du logis et le plus éloigné de la voûte céleste, avec les animaux de la pire des trois conditions. Et pourtant, elle se place, selon sa pensée, au-dessus du cercle de la lune et ramène le ciel sous ses pieds. C'est par la vanité de cette même pensée que l'homme s'égale à Dieu, qu'il s'attribue les qualités divines, qu'il se distingue lui-même et se sépare de la foule des autres créatures, taille les parts des animaux, ses confrères et compagnons, et leur distribue telle portion de faculté et de force que bon lui semble. Comment connaît-il, par l'action de son intelligence, les mouvements internes et secrets des animaux ? Par quelle comparaison d'eux avec nous conclut-il à la stupidité qu'il leur attribue ? Vous avez dit tout à l'heure, Frédéric Brahami, que Montaigne était très attaché aux animaux. C'est d'autant plus important de le comprendre qu'on a là la figure d'un homme qui aime les animaux sans pour autant détester les hommes. C'est même le contraire.
Oui, oui, bien sûr.
On oppose souvent l'amour de l'animal. Il y a une tendance, pour le dire grossièrement, humaniste, qui consiste à considérer presque implicitement que les deux amours sont exclusives, qu'on ne peut pas à la fois aimer les hommes et les animaux, au fond.
Oui, d'ailleurs, dans tout le début de l'apologie de Raymond Sebon, là, le chapitre 12 du livre 2, est une critique radicale de l'humanisme, dans la mesure, c'est-à-dire de la dignitas homini, de la dignité humaine, puisque l'un des fondements de l'humanisme renaissant était que l'homme est supérieur en nature aux animaux, qu'il est à un degré, à un échelon supérieur sur les barreaux de l'échelle de la nature. Et on se servait de cette différenciation comme d'un argument théologique pour montrer qu'il y avait dans la nature humaine quelque chose qui échappait au règne de la nature tout court et qui faisait que l'homme participait en quelque sorte de la divinité, qu'il était à la fois naturel et plus que naturel. Et Montaigne, dans cet immense chapitre central des essais, ne cesse de déconstruire cette construction théologique.
C'est le chapitre 12 du livre 2, l'Apologie de Raymond Sebon. On comprend également, quand on lit ça, que quand les Lumières, quand la philosophie des Lumières, et sous ce vocable on rassemble des tendances tellement contradictoires que c'est très grossièrement présenter les choses que de dire ça comme ça, mais quand la philosophie des Lumières, pour le dire donc grossièrement, vante la spécificité de l'homme, elle ne fait au fond que reconduire le projet théologique ou l'intuition théologique ou le sentiment théologique ou la certitude, appelons ça comme on veut, de la centralité de l'humanité et qu'il n'y a pas tant rupture que continuation d'une théologie quand la philosophie des Lumières situe l'homme au centre de ce qui n'est plus la création mais qui devient tout simplement le monde.
On pourrait même être un petit peu plus critique ou sévère à l'égard de cette part d'ombre qu'il y a dans les Lumières en disant qu'il n'y a pas seulement une continuation mais il y a une absolutisation, c'est-à-dire que le prométhéisme des Lumières consiste à conférer à l'homme ce qui avant appartenait à Dieu. C'est la critique que quelqu'un comme Feuglin, par exemple, fait des Lumières. Alors que chez Montaigne et chez Rousseau, qui est, comme on le sait, à la fois un homme des Lumières et un critique extrêmement lucide des
Lumières.
Dans
le même mouvement, d'ailleurs.
Exactement, dans le même mouvement. Et surtout, c'est ça qui est très impressionnant, au moment même des Lumières et des critiques des Lumières, on a chez Rousseau cette même intuition qu'il y a chez Montaigne et qui est, on peut dire, anti-humaniste, en effet.
On peut parler d'anti-humanisme. Est-ce que ça n'est pas anachronique, tout simplement, d'employer ce terme, voilà.
Le problème de l'humanisme, c'est exactement comme ce que vous disiez sur les Lumières. C'est-à-dire, c'est des étiquettes qui recouvrent des choses tellement différentes. Dire de Montaigne que c'est un anti-humaniste, c'est une bévue. Quand on voit l'amour qu'il a pour la culture antique, la poésie, sa maîtrise, sa connaissance de l'humanisme, on ne peut pas dire qu'il est humaniste. Si par humanisme, on entend une philosophie qui absolutise l'homme, qui le sépare de la nature, alors il est anti-humaniste.
Il est également, là encore, avant Spinoza, avant la toute fin de l'éthique et la critique spinozienne du principe de récompense, à l'origine justement de cette critique, comme il est à l'origine d'une morale qui est à elle-même sa propre fin. Montaigne dit un moment, quand Platon nous décrit le jardin de Pluton et les aises ou les peines corporelles qui nous attendent après la ruine et l'anéantissement de nos corps, quand Mahomet promet aux siens un paradis couvert de tapis parés d'or et de pierreries, peuplé de filles d'une suprême beauté de vins et de mets rares, je vois bien, dit Montaigne, que ce sont des glues qui, se moquant de nous, s'adaptent à notre bêtise pour nous attirer comme avec du miel par ses opinions et ses espérances qui conviennent à nos aspirations de mortels. S'il y a, dit-il un peu plus loin, dans le bonheur quelque chose de mien, il n'y a rien de divin. Frédéric Brahami.
Oui, j'avais pas ce texte en mémoire, là, c'est magnifique. Je pense que Montaigne considère que la plus grave, la plus sauvage de nos maladies, c'est de mépriser notre être. Hein. Et il considère, lui, que finalement, le travail d'un homme, vivre à propos, arriver à soi, c'est en vérité vivre au maximum de la santé. Je pense que chez Montaigne, le souverain bien ou le bonheur, c'est la santé. Mais une santé, alors la santé, c'est pas seulement le silence des organes, comme disait Canguilhem, c'est une santé, dit-il, bouillante et allègre. Et cette santé, c'est la capacité de vivre de manière souple, ployable, diverse, et d'être constamment en adéquation avec la diversité des circonstances de la vie.
C'est-à-dire de ne pas déduire ses mœurs d'une science rigoureuse, de ne pas entretenir un rapport hypothético-déductif. En somme, le décalogue m'invite à secourir celui qui a besoin de moi, c'est la raison pour laquelle je le fais. Ne pas souscrire, au fond, à un texte qui dispenserait de s'interroger sur la nature même du geste qui est le mien, quand il est généreux, par exemple.
Oui, oui, je suis absolument d'accord avec ça. Il n'y a pas d'instance extérieure à ma propre situation qui me dise, qui ait la capacité et qui ait le droit de me dire ce que j'ai à vivre.
Alors, ce serait mentir par omission à nos auditeurs que de faire une émission sur le scepticisme de Montaigne avec vous, Frédéric Brahami, sans faire entendre le texte dans lequel Montaigne dit « Que sais-je ?» formule qui a la postérité qu'on lui connaît. Alors, ce texte est donc, pour ceux qui l'ignorent, dans le chapitre 12 du livre 2 des Essais, dans l'Apologie de Raymond Sebond, et c'est, comme tous les textes de cette semaine, Jean-Louis Jacopin qui nous le lit.
« Notre parler a ses faiblesses et ses défauts, comme tout le reste. » La plupart des occasions des troubles du monde sont grammairiennes. Nos procès ne naissent que du débat de l'interprétation des lois, et la plupart des guerres de cette impuissance de n'avoir su clairement exprimer les conventions et traités d'accord des princes. Combien de querelles et combien importantes a produit au monde le doute du sens de cette syllabe ? Hoc. Prenons la clause que la logique même nous présentera pour la plus claire. Si vous dites « il fait beau temps » et que vous dissiez « vérité », il fait donc beau temps. Voilà pas une forme de parler certaine ? Encore nous trompera-t-elle. Qu'il soit ainsi, suivons l'exemple. Si vous dites « je mens » et que vous dissiez vrai, vous mentez donc. L'art, la raison, la force de la conclusion de cette-ci sont pareils à l'autre. Toutefois, nous voilà embourbés. Je vois les philosophes pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur générale conception en aucune manière de parler, car il leur faudrait un nouveau langage. Le nôtre est tout formé de propositions affirmatives qui leur sont du tout ennemies. De façon que quand ils disent « je doute », on les tient incontinent à la gorge pour leur faire avouer qu'au moins assurent et savent-ils cela, qu'ils doutent. Un sillon les a contraints de se sauver dans cette comparaison de la médecine, sans laquelle leur humeur serait inexplicable. Quand ils prononcent « j'ignore » ou « je doute », ils disent que cette proposition s'emporte elle-même quand et quand le reste, ni plus ni moins que la rhubarbe qui pousse hors les mauvaises humeurs et s'emporte hors quand et quand elle-même. Cette fantaisie est plus sûrement conçue par interrogation. Que sais-je ? Comme je la porte à la devise d'une balance.
Comme je la porte à la devise d'une balance. Le que sais-je, Montagnien, est un que sais-je qu'il promène avec lui. C'est une façon d'interroger le monde, Frédéric Brahmi, plutôt que de se poser véritablement la question de ce qu'il sait, objectivement.
Oui, juste avant, dans le texte qu'a lu, qui vient d'être lu...
Jean-Louis Jacobin, oui.
Oui, qu'a lu Jean-Louis Jacobin, on voit bien, on retrouve ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire il y a la violence du temps. Hein. Combien de querelles cette seule syllabe « hoc » Il fait référence
c'est
là...
C'est « hoquest corpus meum ».
Voilà, c'est ça. Il fait référence aux querelles entre catholiques et protestants sur...
La transsubstantiation.
Voilà, oui, sur exactement. La transsubstantiation, la présence réelle du Christ, etc.
Et le cannibalisme, précisément, chrétien,
aussi.
En l'occurrence. Oui,
tout
allez-y.
À fait. Et donc, on voit, hein, on voit bien, premier point, que le scepticisme ici sert à défaire la violence inhérente au langage. Au langage, parce qu'il y a un dogmatisme inhérent au langage, c'est ce qu'il dit. Notre langage est fait de propositions dogmatiques qui est ennemi aux sceptiques. Et c'est pour ça qu'il faut, transformer l'affirmation en interrogation. Et cette interrogation, ben, on retrouve exactement ce par quoi on a commencé. Il la promène avec lui, hein, il la porte sur lui. Cette interrogation que sais-je, et on retrouve ce besoin ou cette volonté par Montaigne d'être étonné par l'ordinaire, c'est-à-dire par ce qu'il rencontre.
On va parler demain de Pascal, Frédéric Brahmi, comme on arrive au terme hein, presque de cette émission, je voudrais terminer sur l'objection que Pascal fait à Montaigne, l'une des objections que Pascal, qui par ailleurs en est l'héritier à plus d'un titre, fait à Montaigne. Pascal dit ceci, il met toute chose, donc parlant de Montaigne, dans un doute universel et si général que ce doute s'emporte soi-même, c'est-à-dire s'il doute, et doutant même de cette dernière supposition, son incertitude roule sur elle-même dans un cercle perpétuel et sans repos, s'opposant également à ceux qui assurent que tout est incertain et à ceux qui assurent que tout ne l'est pas, parce qu'il ne veut rien assurer. C'est dans ce doute, qui doute de soi, et dans cette ignorance qui s'ignore, qu'il appelle sa maîtresse forme, qu'est l'essence de son opinion, qu'il n'a pu exprimer par aucun terme positif. Car s'il dit qu'il doute, il se trahit en assurant au moins qu'il doute. Ce qui étant formellement contre son intention, il n'a pu s'expliquer que par interrogation. De sorte que, ne voulant pas dire « je ne sais », il dit « que sais-je » dont il fait sa devise, en la mettant sous des balances qui, pesant les contradictoires, se trouvent dans un parfait équilibre, c'est-à-dire qu'il est pur pyrrhonien. C'est pas un peu injuste ?
Alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que...
Vous avez une minute hein, pour nous expliquer ça.
Ah bah, très simple. Le problème qu'on a toujours... Vous en avez parlé hier d'ailleurs. Hein, le problème qu'on a toujours trouvé dans le scepticisme, c'est qu'il affirme qu'il doute. Bon, et que s'il doute qu'il doute, il détruit le doute. Et que s'il affirme qu'il doute, il détruit le doute. Donc il y aurait un dogmatisme secret du scepticisme, en effet, que Montaigne tourne en transformant l'affirmation « je doute » en « que sais-je ». Bon, ce que je trouve extraordinaire dans le texte de Pascal, c'est qu'il n'est pas injuste, il dit exactement, là, il restitue exactement la position de Montaigne, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça le scandalise Pascal, alors que Montaigne assumerait, Montaigne dirait à Pascal s'il avait lu ce fragment, bah oui, c'est exactement ce que je pense, je transforme en effet l'affirmation du doute en question, et alors ?
Et quelle meilleure façon de restituer le doute que d'en faire une question, Frédéric Brahmi.
Voilà. Donc c'est ça qu'il y a de touchant dans ce texte de Pascal, c'est qu'on voit à la lettre que Pascal ne peut pas supporter le scepticisme. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose de scandaleux dans le simple fait de continuer indéfiniment à poser des questions sans jamais apporter de réponse.
Eh bien, on en parlera demain. Merci Frédéric Brahmi de nous avoir parlé, d'être venu à distance, puisque vous êtes en duplex avec nous, d'être venu donc entre guillemets nous parler.
All my life.
Et sous quelques mesures d'Ella Fitzgerald, à 10h50, on retrouve avec joie le journal des nouveaux chemins de la connaissance. Et Adèle Van Redt. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Montaigne est par excellence le philosophe du présent, c'est du présent que vous allez nous parler aujourd'hui.
Oui, la nostalgie du présent, c'est le très beau titre d'un très beau livre de François Gantret. Et donc on passe du scepticisme à l'écriture, l'écriture comme assemblage de signes, de traces, sans vie, et qui pourtant parvient à travers le choix des mots à exprimer un sens, à faire éprouver une sensation. Et ce mystère, cette magie de l'écriture, elle est au cœur de cet essai, la nostalgie du présent, donc psychanalyse et écriture qu'on trouve aux éditions de l'Olivier. L'auteur de cet essai, c'est François Gantret, qui était venu nous parler de Freud début janvier dans le journal Les Nouveaux Chemins et que j'accueille une nouvelle fois avec plaisir. Bonjour François Gantret.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et écrivain et c'est à partir de cette double pratique que vous réfléchissez dans ce livre sur l'écriture, donc l'écriture comme lien finalement entre ces deux disciplines que sont la littérature et la psychanalyse. Alors quels sont les... Comment écrit-on en écrivain et comment écrit-on en psychanalyse? Quelles sont les différences qu'il y a à écrire sur son fauteuil de psychanalyste ou sur sa table d'écriture d'écrivain? Et qu'est-ce qu'on gagne à confronter ces deux pratiques, François Gantret?
Mon intérêt dans l'affaire, qui date de longtemps, c'est la question que je me pose depuis longtemps, c'est comment peut-il y avoir du nouveau? Bon, question un petit peu large, c'est-à-dire du véritablement quelque chose qui émerge et qui était en souffrance d'exister, et comment peut-on le faire exister et le mettre en présence? Et c'est une question qui est identique, je m'en suis aperçu d'abord pour la psychanalyse et pour l'écriture. Pour la psychanalyse parce que, comme on le sait maintenant, je crois, c'est assez répandu, tout se joue... avec ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire la présence de l'infantile qui, peu à peu, émerge dans la situation analytique. Sans cette présence, cette vivance, je m'expliquais sur le mot dans un instant, sans cette présence et cette vivance de l'infantile, bon, on peut explorer le fonctionnement de quelqu'un, on peut essayer de comprendre, mais... on ne peut rien faire émerger de nouveau. Hein, on reste dans la répétition et le constat de la répétition. Donc, or, dans l'écriture, il en va de même. Hein. L'écriture, c'est-à-dire non pas quelque chose qui est simplement une communication de connaissances ou d'un savoir, mais une écriture qui fait émerger, bon, dont le, par exemple, l'aspect le plus aigu, ce serait la poésie. C'est-à-dire comment, à travers les mots, quelque chose peut être mis en présence. Vivance, c'est un mot que j'ai employé tout à l'heure, qui n'existe pas en français. C'est un mot qui vient de l'espagnol, vivencia. Et c'est un mot, c'est intéressant, c'est un mot qui a été introduit de toutes pièces par Ortega y Gasset, qui l'a fait exister dans la langue. Vivance, c'est-à-dire ce qui, dans la parole elle-même, est en présence et non pas seulement évoqué.
Voilà, et donc ça, c'est le lien qu'il y a à la fois entre la psychanalyse et la littérature, donc cette démarche d'écriture dont le but est de mettre en présence une émotion, une sensation, et vous allez même jusqu'à parler de sensualité.
Oui.
La sensualité comme étant ce lien également entre ces deux formes d'écriture.
Alors, sensualité, c'est quelque chose que j'aimerais bien préciser davantage. Nous connaissons le monde à travers et grâce à nos sens, mais nos sens ne nous donnent au fond que des signes, hein. Ou plus exactement, nous traduisons immédiatement en signes. Nous pensons en termes de signes, et les signes sont des choses mortes. La sensation, elle passe, elle n'est pas retenue. Elle n'est pas retenue en tant que telle. Ce qui est retenu, c'est les traces de son passage, c'est les cicatrices de son passage. Comment elle a brûlé les synapses, si on veut parler en termes de physiologie. Donc, immédiatement, nous sommes dans quelque chose qui est... Je prends par exemple l'apologue de Borges de la carte à l'échelle 1 sur 1, c'est-à-dire qui recouvre point par point un territoire, et nous marchons sur un sol de signes. comment peut-on retrouver le contact entre la plante du pied et la terre et la mousse et l'herbe qui est en dessous? Comment peut-on retrouver la sensation dans sa fugitivité?
Oui, donc c'est une question qui se situe à la base de toute réflexion sur l'écriture. C'est l'essence même de l'écriture.
Alors, ce n'est pas seulement l'écriture, hein, finalement.
La création.
L'idée de la peinture m'a apporté beaucoup. On pourrait croire que dans la peinture, on est plus près de la sensation, plus proche de la matière, évidemment. Mais, quelqu'un comme Picasso disait, nous ne faisons que mettre des signes. Je voudrais que ma toile sente le poireau ou que mon nu féminin sente l'odeur des aisselles, mais malheureusement, nous ne sommes que des pauvres peintres et nous sommes condamnés aux signes.
Alors, est-ce que c'est dans cet écart entre les sens, la sensation et les signes qu'il faut trouver ce constat de la perte du présent? Parce que si je reviens à votre titre, donc la nostalgie du présent, on comprend, donc, si vous utilisez le terme de nostalgie, qu'il y a eu perte, qu'il y a manque d'un présent. Est-ce que ce manque-là, c'est celui de l'impossibilité de ressaisir le réel dans son caractère sensible?
Tout à fait. C'est ce qui nous manque, peut-être de l'idée, à tout moment, d'une moindre réalité, d'un peu de réalité. Et donc, une nostalgie d'un temps qui, probablement, n'a jamais été, ou qui n'a été que. Alors, un temps, c'est là que aussi je m'interroge, c'est-à-dire le temps s'est vectorisé, nous ne le pensons que vectorisé, l'espace, nous ne le pensons que divisé, mais est-ce que et le temps et l'espace ne sont pas que nos façons, nous sommes condamnés à elles, de penser quelque chose qui serait en deçà et qu'on pourrait appeler et la durée et l'étendue? Durée, étendue, et la sensualité serait peut-être l'accès à cet en deçà.
Et on peut finir cet entretien avec cette très belle formule que vous reprenez de Paul Valéry, qui parle de bribes d'écriture, les bribes d'écriture qu'on jette sur le papier avant de produire un écrit, comme étant des débris du futur. Donc la nostalgie du présent, les débris du futur, ça donne un bon aperçu de votre livre qui est magnifique, je dois le dire. Merci beaucoup François Gontré. Donc je rappelle le titre de votre livre, La nostalgie du présent, psychanalyse et écriture, et on trouve ça aux éditions de L'Olivier.
Et son auteur est aussi convaincant que le livre est sûrement beau. De quoi vouliez-vous nous parler, Adèle?
Alors, à l'occasion de la parution du livre de Pierre Hadot, L'enseignement des antiques, l'enseignement des modernes, le magazine littéraire organise une table ronde dans le cadre des rendez-vous des sciences humaines qui se tient au Centre culturel des Blancs-Manteaux du 12 au 14 février. Cette table ronde aura lieu le vendredi 12 février à 20h à l'espace Claude Lévi-Strauss. Et elle réunira Gwenaëlle Aubry, Jean-François Balaudet, Armaine Tapignan et Frédéric Worms pour un débat sur le thème de l'humanisme comme art de vivre autour de l'œuvre donc de Pierre Hadot. Du beau monde et un sujet très intéressant, c'est donc ce vendredi 12 février pour cette table ronde. Toutes les informations sur cette table ronde et sur ce quatrième rendez-vous des sciences humaines sont bien évidemment en ligne sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance.
Pierre Hadot n'en mérite pas moins, hein, vraiment. On a parlé hier de son livre sur la philosophie antique, on aurait pu parler de son livre sur Plotin, d'ailleurs la simplicité du regard. C'est noté donc toutes ces informations en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. Les Nouveaux Chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à nos amis de France Bleu Besançon, grâce à qui ce duplex a été rendu possible. Merci à Jean-Louis Jacopin, notre lecteur de la semaine. Quelques livres, Frédéric Brahami, Le scepticisme de Montaigne, aux Presses universitaires de France. Une série également de textes sur la fraternité, publiée par Frédéric Brahami aux Presses universitaires de Franche-Comté. Un numéro de la revue Esprit, un numéro sur les Lumières, Refaire les Lumières, août-septembre 2009, auquel participe également Frédéric Brahami. Toutes ces informations, on les trouve en ligne sur Internet, là encore, hein, notre site Internet très complet, mis à jour tous les jours par Camille Lugan. On se retrouve demain de 10h à 11h pour la suite de cette semaine sur le scepticisme. On repartira notamment de ce qu'on a dit de Pascal, du jugement pascalien sur Montaigne, en compagnie de Sylvia Giocanti.